Bon, eh bien bonjour, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes. Nous allons aujourd'hui reprendre la suite de nos séminaires collections, qui avaient déjà eu lieu l'an dernier. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir des chercheurs qui sont en quelque sorte sur les deux piliers de notre construction. D'une part, chercheur spécialiste des matériaux qui va nous parler justement des rapports entre la science des matériaux et l'archéologie, et une spécialiste d'histoire de l'art qui parlera d'un autre versant. Donc je vais tout de suite donner la parole à Philippe Dillmann, qui est le responsable du laboratoire LAPA, qui est notre collaborateur et le laboratoire avec lequel nous travaillons pour mettre en place ce séminaire. Donc c'est notre précieux atout scientifique dans le domaine des sciences des matériaux. Donc le LAPA, qui est un laboratoire d'archéomatériaux, qui est ici au CEA de Saclay. Et donc nous allons commencer par la première conférence. Donc je te donne la parole.
Oui, merci pour cette présentation générale qui cadre bien l'esprit de notre séminaire avec ces deux pieds, ces deux membres extrêmement complémentaires. Je vais simplement présenter brièvement Florian Terrejol, qu'on a la joie d'accueillir aujourd'hui, qui est chercheur chargé de recherche au CNRS au sein du LAPA et qui est éminent spécialiste de la métallurgie des longs ferreux. Vous trouverez, il a commis plusieurs ouvrages sur le sujet de synthèse que vous pourrez trouver sur le site du LAPA. Ce qu'on voulait que Florian montre aujourd'hui, c'est vraiment la complémentarité d'approche entre, d'une part, les approches archéologiques, les approches d'études des matériaux en elles-mêmes, mais également celles sur les textes, recettes, traités, etc. Florian vous détaillera tout ça autour de la compréhension des pratiques métallurgiques et des pratiques métallurgiques des non-ferreux. Donc les ouvrages qu'a produit Florian portent notamment sur ces thématiques-là, et c'est vraiment une interdisciplinarité au quotidien exigeante que Florian va vous présenter maintenant. Voilà, je pense que je vais lui céder la parole.
Merci. Merci de m'avoir invité. Alors, je vais essayer de vous parler effectivement de cette métallurgie médiévale au travers de l'expérience, de l'expérimentation, et comment elle peut être utilisée pour comprendre l'élaboration d'un objet. Et pour comprendre comment cette expérimentation a pu trouver une place dans la recherche dédiée à la paléométallurgie, et plus particulièrement aux métallurgies médiévales en France, parce que c'est plus spécifiquement ma spécialité, j'ai pensé qu'un rapide survol historiographique allait quand même s'imposer, parce que vous n'êtes pas nécessairement inscrit dans cette thématique. Alors, pour le cas français, et uniquement pour le cas français, l'intérêt porté à l'histoire technique dans une approche matérielle des concepts, autour duquel se trouve celui vraiment emblématique de la chaîne opératoire, ce terme établi par le roi Gouran et repris, il faut le noter, sans traduction dans le monde anglo-saxon, cet intérêt ne remonte guère au-delà des années 40 du XXe siècle. Elle est le fait d'une série de chercheurs qui, au départ, sont issus du milieu de l'ingénierie. À cette première communauté, qui va être active jusque dans les années 60, succédera celle des archéologues, qui est toujours d'actualité, j'en suis un rejeton. Et en symbiose avec cette communauté, va se constituer une troisième famille, celle des archéomètres, dont Philippe fait bien sûr partie. Elle prend réellement son essor dans les années 90, et comme vous pouvez le voir sur le graphique, je la mets sciemment sur la même ligne que le temps des ingénieurs, car la majorité des archéomètres sont issus de cette lignée. J'entends par là qu'ils ont une formation en sciences dures, principalement. Ces deux familles, archéologues et archéomètres, qui sont différentes dans leur histoire, dans leur construction, figurent aussi une distribution géographique séparant à l'est de la France les archéologues et à l'ouest les archéomètres. Cette répartition qui pourrait apparaître assez triviale, car rien n'empêche de travailler en collaboration, ma foi, il y a le téléphone, il y a des méthodes modernes de communication, marque pourtant les choix de la recherche actuelle. Vous noterez quand même qu'il y a deux endroits où les deux familles arrivent à se rencontrer, c'est dans les zones frontières évidemment, ça va être au niveau de Paris, et j'entends Paris-Orléans, pour moi c'est la même unité, et puis sur la zone de Toulouse. Donc vraiment, on a cette répartition. L'expérimentation dans ce tableau rapidement brossé n'apparaît en fait qu'assez tardivement, Pourtant, les travaux d'archéologie expérimentale se sont peu à peu fait une place relativement importante pour représenter aujourd'hui une part conséquente de notre activité de recherche. La raison de cette croissance relativement rapide, que je vous montre là sur cette frise chronologique, tient d'une part à l'activité des archéologues qui vont d'abord devoir créer des corpus. C'est-à-dire il va falloir trouver des sites avant de réfléchir des sites, des objets, avant de pouvoir réfléchir à comment ça a fonctionné, bien sûr. Et on voit que dans les années 80, l'expérimentation représente guère plus de 5% de l'activité au sein de la communauté des archéologues. Dans les années 90, avec l'arrivée des archéomètres, la place de l'expérience trouve une place naturelle dans l'activité, puisque ce sont des gens qui viennent des sciences naturelles et pour qui l'expérience est vraiment au centre de la démarche. Et puis, dans les années 2000, là, on a encore une croissance de l'activité expérimentale avec l'arrivée des historiens et des restaurateurs. Tout cela se met en place selon différents lieux. On trouve d'abord les sites archéologiques sur lesquels on va pratiquer l'expérimentation. Celle-ci va aussi se développer de façon assez constante à l'occasion de manifestations culturelles. Et puis, on va voir aussi l'apparition très précoce des plateformes expérimentales, avec la première d'entre elles, celle de l'archéodrome de Beaune, qui a été active de 1978 à 2005. Et puis celle que je dirige, la plateforme expérimentale de Mel en Poitou-Charente, qui est active depuis 2002 et je ne peux pas vous dire jusqu'à quand elle va réussir à fonctionner. Dans le cas spécifique de l'expérimentation paléométallurgique inscrite dans la période médiévale, les sources peuvent être de trois natures pour travailler. On va avoir de la source écrite, de la source archéologique bien sûr, et aussi parfois de la source ethnologique. Ce dernier cas, je ne le développerai pas ici, car l'observation d'un procédé fonctionnel nécessite rarement d'avoir recours à l'expérience, en fait. Son usage, de plus, reste relativement délicat, car en plus du décalage chronologique, vient souvent s'ajouter un décalage géographique. Pour ce qui touche à l'écrit, deux grandes familles de documents cohabitent dans notre démarche. Les sources écrites, elles se répartissent pour l'expérimentateur entre des textes indirects, ça va être des comptes d'activité, des règlements et des textes directs. On va trouver pour la période médiévale des recettes, tardivement des traités. Là, on commence à entrer dans la période moderne. Et puis, parfois, des comptes rendus opératoires. Ces documents-là, je vous en ai mis un à l'écran ici, un compte rendu opératoire sur une essai de mines d'argent en Isère de 1359. Ce sont des documents qui sont excessivement rares. Alors, l'expérience s'inscrit aussi dans une matérialité des techniques au travers des sites et des structures archéologiques. Et puis, par l'objet au sens large, j'entends l'outil, le produit, mais également le déchet issu de cette production. J'inscrirai donc cette communication selon trois axes. Premièrement, l'interprétation du texte et son expérience. Dans un deuxième temps, je verrai comment l'expérimentation se place par rapport au site archéologique. Les expérimentations qu'on va faire sur site et celles qu'on va faire hors site. Et enfin, j'aborderai la question de l'objet archéologique et de sa construction analogique. Alors, l'interprétation et son expérience. Nous sommes face à des textes, des recettes principalement, dont nous disposons d'un corpus relativement important qui se rattache, dans une grande partie, à l'alchimie pratique. Ces sources plongent leurs racines dans l'Antiquité, mais également dans les savoirs issus du monde arabe, qui souvent retrouvent le monde antique. Ces sources variées reflètent des évolutions propres des techniques, comme dans le cas que je vous montre à l'écran, de la technique de purification de l'or, donnée dans le traité de Théophile, donc un traité du XIIe siècle. Pour ce procédé, dont on trouve des mentions explicites chez Dioscoride, la modification, lorsqu'on arrive à la période médiévale, porte sur la nature du sément. On passe chez Dioscoride d'un mélange d'alun, d'urine, de sel marin et d'acétate de cuivre pour arriver à affiner l'or et permettant de former ce qu'on appelle les verres roses, à un mélange de briques pilées et de sel et de vinaigre chez Théophile. Ce qui rend en fait l'application beaucoup plus facile à mettre en œuvre et, ma foi, l'expérience nous a montré, tout aussi efficace. Reste que ce corpus de textes peut être difficile à interpréter, car intrinsèquement, les textes sont souvent relativement obscurs. La rédaction des recettes, il faut bien en être conscient, se fait déjà loin de l'atelier, donc ce ne sont pas les gens qui pratiquent qui passent à l'écrit, évidemment. Et puis surtout, les traductions peuvent être empreintes d'erreurs, rendant parfois la recette inopérante. Enfin, nous subissons le prisme déformement de nos propres schémas de pensée. Et là, je vous prends le cas de la recette des moules à plomb de vitrail de 1396 d'Antoine de Pise, que connaît bien Annick. On dit dans cette recette que le meilleur des moules est celui conçu avec un alliage de 4 parts de plomb et d'une part de cuivre. Et puis plus loin, l'auteur remarque qu'en mettant du suif ou de la cire dans le plomb lorsque celui-ci est fondu, il devient beaucoup plus fluide dans le moule à couler. Alors pour des métallurgistes modernes, je ne vous ai pas donné l'intégralité du texte, mais les deux morceaux que je viens de vous citer marquent deux aberrations potentielles. Tout d'abord, fabriquer un alliage de plomb et de cuivre. Alors on passe sur la notion d'alliage, parce qu'on sait que le plomb et le cuivre ne vont pas s'allier. Mais même pour un métallurgiste, fondre ensemble du cuivre et du plomb, ça ressemble un peu à une aberration, puisque les deux métaux ne vont vraiment pas s'assembler. On va obtenir quelque chose de très cassant. Donc a priori, on va éviter d'aller vers ce type d'alliage. L'autre aberration, c'est améliorer la coulée en ajoutant au mélange fondu, donc du plomb, on est dans quelque chose qui est liquide à 327 degrés, un corps gras qui donc va brûler et qui va s'apparenter, je vous ai mis l'image ici, qui va s'apparenter à ce que ceux qui ont fait la formation aux sécurités au CEA, on appelle un feu de friteuse. Donc jeter du suif dans du plomb fondu, pourquoi faire ? En fait, l'ajout de cuivre autorise un refroidissement plus rapide dû à une meilleure conductivité. Donc quand on fabrique un moule en plomb cuivre dans lequel on va couler du plomb. En coulant ce plomb chaud, on va réussir à refroidir correctement son moule et à permettre de couler des plombs de vitraux suffisamment longs. D'autre part, l'ajout de suif, ça c'est une constatation, et je ne sais pas si Annick pourrait apporter un complément d'information, moi je n'en ai pas actuellement. On constate que ça marche, mais pour l'instant je ne sais pas vous dire pourquoi. On a constaté que quand on rajoutait dans notre plomb fondu du suif, ce qu'on avait rajouté c'était de la graisse de mouton, les deux coulées qui s'en suivaient, on arrivait à couler parfaitement nos plombs, et dès que l'effet cesser de ce matériau ajouté, on n'arrivait plus à couler correctement. Les études métallographiques qui ont été faites en suivant sur ces modèles expérimentaux n'ont pas permis de clarifier clairement l'importance de cet ajout. Néanmoins, c'est une constatation et on voit que la recette est opérationnelle alors que dans notre schéma de pensée, on aurait eu tendance à éviter d'ajouter ce matériau. Ce que nous avions fait d'ailleurs au début des expériences, on avait passé cet ajout de suif ou de cire placé de côté parce qu'on ne voyait pas du tout ce que ça pouvait nous apporter, à part des problèmes. Les comptes, comme les règlements, donc un autre type de texte, donnent également une image de la métallurgie pour la période médiévale et ils permettent d'approcher les qualités de produits, leurs coûts, mais également, et c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement, le mode d'élaboration. L'exemple du partage des bénéfices d'une exploitation minière au XIVe siècle, dans le sud de la France, est assez éclairant dans ce que peut apporter le recours à l'expérience. Dans ces textes, donc vraiment sud de la France, ça ne concerne pas les exploitations minières du Nord, dans ces textes, systématiquement, les partionniers, donc les personnes qui disposent de parts dans l'entreprise minière, ont droit à un lot de minerais, défini comme mina et terra mina, que l'on pourrait traduire comme le minerai et la terre de minerai. Cette double désignation des produits a longtemps posé question parce qu'on ne voyait pas trop ce qu'elle pouvait cacher. Cette terre de minerai est en fait assimilée aux fines issues du lavage lors des procédés de préparation des minerais avant de passer aux opérations métallurgiques. Néanmoins, pourquoi distinguer le minerai en fonction de la granulométrie ? Donc là, je vous ai mis à l'écran. Là, c'est le minerai qu'on va prélever en mine, donc quelque chose de massif. Ici, vous avez les beaux morceaux qui peuvent partir directement à la fonderie. Et là, vous avez tous les petits déchets qui sont encore riches, qu'on ne va pas laisser perdre parce qu'on est dans une économie où on essaye de ne pas perdre le minerai, et qu'on va enrichir par différentes étapes de broyage et de lavage. Mais expérimentalement, on s'est aperçu qu'en enrichissant ce type de minerai, vous voyez ici un enrichissement au Suisse, c'est les points inclinés pour, qui travaillent par différence de densité, on arrivait effectivement à séparer le minerai, qui reste en tête du Suisse, c'est la tête du Suisse ici. Néanmoins, lorsqu'on fait des dosages de ces minerais, on n'obtient jamais un minerai plus riche que 10%. Donc il y a une différence très nette dans la qualité des minerais qui était en fait marquée dans le texte. Les minerais qui sortent de la mine, qui sont bons à fondre, on est quasiment sur du 100% de minerais, de matière intéressante, alors que le minerai qui est issu du lavage, on n'est plus qu'à du 10%. Et donc on comprend très bien, là je vous ai mis une petite illustration qui n'est pas synchrone puisque c'est le Schwarzer-Bergbourg de 1556, mais on voit les personnes en train de se disputer un peu pour le partage de ce minerai. Ils ont extrait en commun et après chacun reprend ses parts de minerai pour aller en extraire l'argent. À travers ces quelques exemples, on voit les possibilités d'un va-et-vient entre le texte et l'expérience. Le recours à l'expérience se pose alors comme un des possibles pour une meilleure lecture du document. Et là, je rejoins la phrase conclusive de Robert Halleux à son article sur les recettes de l'affinage de l'or écrit en 1974. Seule la reconstitution des techniques, lui les voyant en laboratoire, permettrait de réduire les conjectures. Nous sommes passés maintenant d'un conditionnel, en fait, à un présent bien tangible. On reproduit ces techniques. Deuxième axe de ma communication, l'expérimentation et son lien avec le site. Nous touchons ici aux conditions expérimentales qui doivent tendre vers celles en vigueur au moment du déroulement du fait recherché. Il apparaît immédiatement qu'il s'agit d'un facteur limitant de l'expérimentation. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne l'expérimentation en mine, donc à la base de la chaîne opératoire de l'extraction jusqu'au produit fini. Il s'agit dans ce cas de mieux apprécier les techniques de percement. Comment on va arriver à creuser sa mine? Pour la période médiévale, alors si on accepte l'introduction tardive de la poudre, qui est une méthode difficilement expérimentale, et vous comprendrez pourquoi, les techniques de percement se limitent à l'emploi seul ou conjoint de l'outil et du feu. L'expérience de percement à l'outil seul doit être exclue de notre champ, car elle repose trop sur les capacités physiques de l'opérateur. Donc ça serait pas très reproductible. En revanche, il est possible d'approcher les percements au feu, comme le percement au feu et à l'outil. Le problème ici vient de l'accessibilité au site. L'extraction à la période médiévale prend place principalement sous terre. Cette première condition expérimentale est très difficilement atteignable pour la plupart des mines actuellement, pour des raisons de sécurité, mais également pour des raisons patrimoniales, puisque nous sommes amenés à modifier l'aspect intrinsèque d'un vestige archéologique, ici la mine. Il a cependant été possible de l'obtenir sur deux sites en France pour l'instant, à l'Argentière-l'ABC dans les Alpes et sur le site des mines carolingiennes de Mel. À l'Argentière, l'expérience a eu lieu dans une salle des machines du XIXe siècle et à Mel sur des fronts de taille dans un réseau ouvert au public et donc aménagé dans ce sens, et qui était déjà largement altéré par la valorisation touristique. Mais l'avantage de cette valorisation, c'est qu'il disposait d'un système de ventilation opérationnel, ce qui, pour faire du feu sous terre, est relativement important. Cependant, face aux demandes des touristes, qui n'apprécient guère l'odeur du feu quand ils se baladent sous terre, j'ai dû arrêter ces opérations. Je vais vous montrer cependant ce qu'on a continué à faire avec une petite vidéo, si cela fonctionne. Donc on a continué à travailler en extérieur. Et là, je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc là, c'est sur un bugey en extérieur. C'est un abattage au feu comme il s'en est pratiqué depuis le chalcolithique jusqu'au début du XIXe siècle. Vous voyez la roche qui, sous l'effet de la chaleur, commence à craquer, à se déliter. Il n'y a que moi qui dois profiter du son. Je vois pas. Alors imaginez évidemment, là c'est en extérieur, tout va bien, imaginez sous terre ce que ce genre d'opération va induire. D'abord, quand on va monter son bûcher, bon, on ne va pas pouvoir rester à proximité du bûcher parce qu'il va y avoir des dégagements de fumée, ça semble évident. Mais en fait, ce que nous a montré l'expérimentation, c'est que le problème principal de cette technique d'abattage, c'est l'accumulation progressive de la chaleur dans la roche, où on a un effet four, et au bout de un ou deux feux faits sous terre, comme ce que vous voyez à gauche, il faut attendre plus d'une journée avant de pouvoir revenir sur son front de taille. Une fois que le feu est mort et que la place est de nouveau accessible, donc en extérieur, ça se fait dans la journée, on revient, on enlève le déchet abattu par le feu, qui est mêlé de charbon de bois et de cendres. Celui-là va partir directement au lavage, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et puis, on va travailler à l'outil et on va purger la paroi. Donc là, c'est une technique d'extraction feu-outil. Il faut absolument purger cette paroi, car si on refaisait un feu sur une paroi non purgée, la roche qui s'est fragilisée ferait un écran thermique et ne permettrait pas d'avancer avec le deuxième feu. Et au passage, c'est un archéomètre qui est aux commandes là. Ouais. Ah. Alors, on a testé aussi l'expérimentation avec de l'eau, mais ça ne marche pas. Et voilà, une fois qu'on a purgé sa paroi, on a beau taper comme un sourd, on n'arrive plus à progresser dans ce type de roche. Si on a de la chance, on arrive sur du minerai, sur des veines de minerai. Donc là, vous en avez. Et on va pouvoir déjà extraire ce minerai à l'outil, l'amener à la fonderie. Ce minerai-là ne va pas passer sur les étapes de lavage. Il est bon à fondre. Donc l'intérêt de ces expériences, ça a été de reproduire des formes spécifiques nécessitant des types de bûchers dont on ne retrouve pas mention dans les textes. Le bûcher que je vous ai montré en vidéo, c'est quelque chose de très classique. C'est ce qu'on retrouve dans Agricola, qu'on va retrouver, représenter. On a beaucoup d'iconographie là-dessus. En revanche, le bûcher de gauche, c'est un bûcher fait de fagots qui permet des percements spécifiques et dont, pour l'instant, je n'ai de traces que dans les mines de Mel. Donc c'est vraiment quelque chose de propre à cette mine carolingienne. Vous l'aurez compris, le lien avec le site dans ce genre d'expérimentation est fondamental et les résultats qu'on va obtenir ne sont valables que dans l'environnement considéré. Ils peuvent servir d'indicateurs, d'accord, pour d'autres exploitations, mais la faiblesse du corpus aujourd'hui disponible, je vous ai dit qu'il y avait Mel et l'Argentière l'ABC, n'autorise pas d'utiliser les ratios d'abattage, je vous ai mis le tableau des ratios cumulés, n'autorise pas d'utiliser ces ratios pour comparer avec d'autres sites où l'abattage au feu a été employé. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que à Mel comme à l'Argentière l'ABC, il nous faut 1 kg de bois pour obtenir 1 kg de roche. Mais je ne me permettrai pas de dire que c'est la même chose pour l'ensemble des mines. Nous nous trouvons confrontés à un problème similaire pour les questions minéralurgiques. Il s'agit ici de l'accessibilité à la matière première. Pour expérimenter les techniques minéralurgiques, donc tout ce qui touche à la préparation des minerais avant de passer à la fonderie, il faut disposer de l'outil, je vais y revenir, et du minerai. Alors paradoxalement, le minerai reste le plus simple à trouver, car les outils de broyage visent à traiter des minerais pauvres, je vous l'ai déjà dit. Et dans les zones minières sur lesquelles on travaille, ces minerais pauvres restent en général en quantité suffisamment importante pour permettre de conduire une expérimentation. Le problème principal va donc rester l'outil, percuteur, enclume de pierre ou moulin à minerai, pour la période toujours médiévale. Alors pour tout ce qui est outils manuels, la solution consiste à s'approvisionner sur site, une fois que la nature de la roche servant d'outil a été identifiée. Le problème s'accroît lorsqu'on s'intéresse à un outil hydraulique, comme le moulin à minerai. Il va falloir réaliser des meules. Et ces meules pèsent en général, il en faut deux, et chaque meule va peser en général entre 300 et 400 kg. Les meules sont faites soit à partir d'un lit de pierre en carrière, dans ce cas-là, il faut identifier la carrière d'où elles peuvent provenir, soit à partir de blocs erratiques qu'en général, on va trouver à proximité du site. Le problème de cette expérimentation hors site va alors être strictement technique. Il va s'agir de préparer les pierres sur site. Là, je vous en montre une préparée dans les Pyrénées. Donc, on a choisi les blocs, on a préparé les meules, puis on les a amenés sur la plateforme expérimentale de Mel. Les objectifs dans le cadre de ces expérimentations visent à comprendre le rôle technique des rainurages des meules au moment de leur utilisation et d'apprécier surtout la qualité des produits qui sortent de ces moulins. Autre problème de l'expérience en minéralurgie, reste que le test sur un outil minéralurgique, donc un moulin principalement, nécessite un matériau avec une granulométrie particulière en début de chaîne. Et ça, la mine ne nous le fournit pas tout fait. Le travail de l'expérimentateur, c'est ce que je vous montre à l'écran, commence ici à s'apparenter plus à celui du bagnard qu'à celui du scientifique, puisqu'il faut de la quantité des matériaux en quantité relativement importante, il faut quelques centaines de kilos, à une granulométrie relativement réduite. Et donc, soit on le fait à la main, soit on a quelques machines pour nous aider, mais c'est quelque chose qui va commencer à prendre du temps et qui est limitant dans ce type d'expérience. Lorsque l'outil semble difficile à recréer, il est possible de s'orienter vers ce que j'appelle l'expérience mathématique. C'est ce qui a été mis en œuvre pour un outil minéralurgique particulier, très ancien, le Kimbalete. C'est encore un moulin à minerai. Je me suis intéressé à cet outil parce qu'il a intégré, c'est un outil andin, existant avant l'arrivée des Espagnols, mais il a intégré la chaîne opératoire de production des Espagnols alors qu'a priori, il n'y avait pas sa place. La limite de cette approche, est l'impossibilité dans laquelle je suis de pouvoir émettre une critique. On a mathématisé la production de cet outil. Donc on est arrivé sur des formules mathématiques, et là, par contre, je ne suis pas un mathématicien, et donc je me suis obligé de croire, et je ne peux pas vérifier la véracité de ce que me fournit le mathématicien. Ce qui est un peu limitant. Néanmoins, dans la mesure où ce moulin à minerai, qui est un moulin à minerai en va-et-vient, est connu en Europe, mais à une taille beaucoup plus réduite, c'est un outil manuel, on va pouvoir appliquer ce même modèle mathématique à des outils plus réduits qu'on peut expérimenter également. Et là, on pourra faire une comparaison entre les produits issus de l'expérience et le produit issu du résultat mathématique. Et on voit dans ces premiers exemples un glissement de l'expérience du site archéologique vers un lieu adapté facilitant sa mise en œuvre, donc la plateforme ou parfois le laboratoire. Cela devient presque systématique lorsque l'expérience regarde l'objet archéologique, l'objet au sens large, la structure, le produit ou le déchet. Si la reconstitution de fours pour produire du métal et des déchets qui lui sont associés peut encore prendre place sur le site archéologique, l'écart reste rare et difficile car il nécessite la possibilité de travailler au moins sur le moyen terme. Or, là, il faut savoir qu'en archéologie, la très grande majorité des opérations de terrain se font dans le cadre de l'archéologie préventive, ce qui par nature ne permet pas de disposer du terrain sur le long terme. Donc, sauf si l'appareil métallurgique nécessite des conditions environnementales particulières, sa reconstruction sur une plateforme va être préférable puisqu'on va pouvoir multiplier les expériences. Alors, ça c'est le discours. Par contre, ce que je vous montre à l'écran, c'est un contre-exemple. Il s'agit d'un four à ventilation, toujours dans les Andes, et ce four ne peut fonctionner qu'avec un vent d'une force supérieure à 4 sur l'échelle de Beaufort, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres heure. Et il va fonctionner à une altitude comprise entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Il semblait donc illusoire de tenter des reconstructions sur ma plateforme dans le Bas-Poitou, qui porte bien son nom puisqu'on est à 100 mètres d'altitude, et on n'a pas de problème d'air, on a une atmosphère normale. Pour autant, la difficulté à organiser une expérience dans les Andes, dans ces conditions, a pu être surmontée en se formant au préalable à la construction de ce genre de structure. Quand on va aller sur le terrain, si on ne sait pas déjà comment construire le four, on va perdre un temps relativement précieux. L'acquis, là, peut sembler minime, mais il est pourtant fondamental et il a permis, lorsqu'on a pu aller sur site, de construire très rapidement le four et de voir qu'effectivement, ce genre de structure fonctionnait alors que, sur la plateforme de Mel, on était dans l'impossibilité de produire du métal avec. Néanmoins, on savait déjà le construire, on avait déjà un acquis. Alors, pour autant, la reconstruction sur plateforme permet de progresser par étapes sur le moyen terme. Dans le cas du four de réduction à réverbère, donc là on est dans des technologies a priori européennes et qui se mettent en place à la fin du XVIe siècle, début XVIIe. Je vous ai mis la reconstruction d'un four à réverbère qui a débuté en 2010 à Mel, à partir de données issues de sites en Bolivie, et se sont achevées en 2015, lorsque la maîtrise du four a été acquise. C'était ce qu'on cherchait à voir, c'était comment pouvait fonctionner ce type de four, notamment si on pouvait fonctionner en coulée continue ou s'il fallait vraiment arrêter le four, faire refroidir et repartir sur une nouvelle opération. Donc on sait le faire marcher et on a pu constater aussi que les produits qui étaient issus de ce four expérimental étaient en conformité avec les exemples archéologiques qu'on avait pu prélever sur site. Dans des cas plus évidents comme la monnaie, le recours à l'analogie est particulièrement éclairant. Les règlements monétaires de la fin du Moyen-Âge, principalement pour le Royaume de France, imposent de limiter les pertes métalliques lors de la fabrication de la monnaie. Au moment de la fabrication du flanc, donc ça c'est le rond de métal qui deviendra une monnaie quand il sera frappé, on ne doit pas perdre plus de 12,5% de métal à partir du carreau que vous avez là. On part de ce carreau et on doit arriver à un cercle sans avoir plus de 12,5% de pertes. Ça, c'est le règlement qui l'impose. Et parallèlement, le règlement dicte la marche à suivre pour produire ce flanc. Et c'est cette reconstitution que vous avez ici. Donc il va falloir taper sur son flanc, commencer à l'aplatir un petit peu, rogner légèrement les bords, remarteler. Donc il y a un nombre d'étapes relativement important pour parvenir au cercle qui deviendra, au flanc, qui deviendra la monnaie. Il existe pourtant des moyens plus simples pour aboutir à un cercle en partant d'un carré, mais ces méthodes simples, c'est ce que je vous ai présenté en ABC, ces méthodes simples entraînent des pertes plus importantes, quel que soit le soin apporté. C'est ce qu'a clairement montré nos expériences sur la découpe. Vous avez ABC qui est toujours, les exemples ABC de préparation du flanc, qui est toujours au-dessus des 12,5% de pertes, alors que quand on suit la production édictée dans les règlements, on est systématiquement en dessous, et même parfois largement en dessous, puisque notre moyenne s'est établie aux alentours de 8% de pertes métalliques. Donc nos préparations de flanc auraient été acceptées par le maître de la monnaie. Et les monnayeurs le savent, et donc ils suivent la règle. Et ce n'est que dans les officines de faussaires que l'on retrouve des déchets non réglementaires. Encore que cela varie selon la monnaie falsifiée. Si elle est à forte valeur ajoutée, le respect de la chaîne officielle n'est pas de mise. Parce qu'il y a déjà beaucoup de risques. Et de toute façon, ce qu'on va produire, c'est on va copier de la monnaie d'argent ou de la monnaie d'or avec un alliage bas-titre, ou je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, on a une valeur ajoutée qui supporte la perte métallique dans la préparation du flanc. En revanche, s'il s'agit de copier de la petite monnaie, du petit numéraire de cuivre par exemple, alors pour que le faussaire puisse s'assurer un gain minimum, il est obligé de suivre la technique réglementaire. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans nos fouilles. Quand il copie des monnaies d'argent, il découpe, selon cette méthode, les flancs. Lorsqu'il s'agit de copier de la petite monnaie de cuivre, ils suivent le procédé réglementaire. Cette construction expérimentale vise également à produire des objets, donc par analogie. Il s'agit souvent du métal pour créer un référentiel qui intégrera des études sur la production et la circulation des matériaux. Dans ce cas, il est impératif de disposer d'un minerai identique à celui qui est utilisé à la période considérée. C'est ce qui a été fait par exemple dans le cas du minerai de fer de Rancier. Du minerai a été collecté sur cette mine productrice à la période médiévale, puis il a été transformé en fer selon le procédé direct. Donc là, je laisserai Philippe expliquer les différences entre procédé direct et indirect pour la métallurgie du fer. Mais néanmoins, on n'a pas utilisé la structure archéologique dans laquelle on aurait pu transformer le minerai en fer. On a utilisé une structure qu'on maîtrisait, l'objectif étant là de produire du fer et de la scorie. Cette démarche similaire a été entreprise pour la métallurgie de l'argent, mais aussi pour celle du cuivre. Et là, la maîtrise des procédés d'essai par coupellation, donc comment produire de l'argent, nous autorise maintenant à des tests sur des alliages spécifiques afin d'apprécier comment se comportent les éléments. La maîtrise du four est telle, ce petit four d'essai, que les contrôles de température ne nous sont même plus utiles. On sait exactement comment fonctionne notre four, combien de temps il va nous falloir pour monter à température et comment il va travailler. Nous connaissons les rythmes de l'opération et sans échec, nous arrivons à notre argent. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse expérimentalement. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement, là, dans cette expérience, le comportement du bismuth lors de la coupellation. Dans les deux cas évoqués, on voit que la fonction de l'expérimentation s'est déplacée. Elle repose maintenant sur la maîtrise des procédés anciens. Nous visons à produire du métal dans des conditions adéquates grâce à un savoir-faire que nous avons acquis depuis plusieurs années. C'est une évolution dans la pratique expérimentale qui repose sur un travail sur le long terme. Et là, c'est bien le savoir-faire de la main, cher à Robert Halleux, qui autorise ce travail par analogie. Une autre voie est de faire appel à des hommes de l'art pour produire l'analogue. Alors, c'est un raccourci tentant et parfois qui est incontournable. Il permet un gain de temps appréciable, ça c'est évident. Mais un de mes hommes de l'art me dit toujours que le temps se venge toujours de ce qu'on fait sans lui. Et il peut s'agir aussi bien dans cette approche d'observer une technique encore en usage. C'est ce que je vous montre ici avec les exemples de coupellation, justement. Là, un exemple parisien. Ce sont un atelier encore actif actuellement, et là un exemple bolivien, toujours sur les essais de minerai. Le risque à terme, en travaillant avec des hommes de l'art, est de s'enfermer dans la vision propre de l'opérateur. C'est un des problèmes que l'on a avec que ce soit les potiers, les métallurgistes avec qui on peut travailler, c'est qu'ils ont une technique pour obtenir un résultat, et qu'ils vont souvent refuser de changer de technique, même si on leur demande d'évoluer dans leur démarche. On est face à des hommes de l'art, on n'est pas face à des chercheurs. La richesse de l'approche expérimentale repose sur ces différents niveaux d'intervention. Face à un procédé inconnu, on va élaborer un plan expérimental. Nous sommes strictement alors dans l'archéologie expérimentale. Avec la maîtrise d'un procédé, on peut évoluer vers une archéologie que j'appellerais expérientielle, pour reprendre un terme anglo-saxon. Ce néologisme cache une approche s'appuyant en fait sur le ressenti. Elle reste très difficilement transcrite dans les publications, car elle a souvent été dévoyée par des expérimentateurs. Je reprends l'exemple d'un collègue travaillant sur la métallurgie du fer, qui se penche au-dessus de son four et qui, quand il sent la barre là, vous explique que le four est réducteur. Bon, c'est pas à faire. On ne respire pas les fumées de son four. Bon, néanmoins, il s'agit d'une réalité connue de l'ensemble des expérimentateurs. Plus la maîtrise d'un procédé est importante, plus notre ressenti va s'accroître. Cela reste une approche subjective, il faut en avoir bien conscience, mais elle permet pourtant de conduire correctement une expérience. Il faut bien reconnaître que souvent expérientiel et expérimental se recoupent, ou que plus exactement, ils sont conduits simultanément, sans bien souvent que l'expérimentateur n'en ait une réelle conscience. Et surtout, jamais elle ne va apparaître dans les publications scientifiques, car évidemment, on est dans le subjectif. Face à un four qu'on maîtrise, on va quand même mettre une sonde thermique pour obtenir une courbe de température et pouvoir la produire. Si on dit qu'on est monté à telle température parce qu'on a vu la couleur de son four, les reviewers vont nous renvoyer la publication. Sinon, si on met une courbe de température, ça sera accepté. Et puis enfin, pour finir, n'oublions pas, là je vous ai mis une diapo sur la plateforme de mail, que l'expérience reste également un outil de valorisation très performant. Donc si vous voulez, depuis que je travaille sur la plateforme de Mel, on a conduit 147 séries expérimentales et on a vu passer quelques 50 000 touristes. Donc en termes de valorisation de la recherche, c'est quelque chose d'assez efficace. Et si vous voulez retrouver les publications liées à cette plateforme, je vous ai mis le petit lien au-dessus. Je vous remercie de votre attention.